France Inter.
Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, Roman Polanski face à la vague MeToo. Le 28 février 2020, le César du meilleur réalisateur est décerné au cinéaste franco-polonais pour son film J'accuse. Or, la récompense choque. Oh, ce n'est pas la qualité de son travail qui est en cause. Polanski est un cinéaste respecté, un talent hors norme, c'est clair. Le pianiste, notamment, inoubliable. Mais, et c'est un gros mais, ce sont les 12 accusations de viol portées contre lui au fil des années qui scandalisent. Car enfin, aussi brillant l'artiste soit-il, est-il légitime de récompenser un homme visé par plusieurs plaintes pour violences sexuelles? Bien sûr, Roman Polanski n'a pas l'attitude d'un Gérard Depardieu sur les tournages. On le dit même assez gentleman. Toutefois, il y a ce passé trouble que la vague MeToo fait remonter à la surface. L'homme et l'artiste sont-ils dissociables? Peut-on respecter une œuvre sans encenser ou récompenser son auteur? Doit-on bannir Roman Polanski de l'espace public pour ne pas apparaître complice des faits qui lui sont reprochés? En somme, que nous dit son César de notre société? Notre invitée aujourd'hui est Julia Foyce, la journaliste et productrice de l'émission En Marge sur France Inter. Elle est aussi, et surtout en l'occurrence, la co-autrice de la pièce de théâtre « Faut-il séparer l'homme de l'artiste ?» Affaires Sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct. Récit documentaire Sophie Bobert, rédaction en chef Franck Cognard, chargé de programme Rebecca Donnante, réalisation Stéphane Cohn.
Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter.
Vendredi 28 février 2020. Au fil des heures et sous un ciel de plomb, la capitale bruit de mille rumeurs. Roman Polanski sera-t-il couronné lors de la 45e édition des Césars? Des collectifs s'organisent pour l'empêcher de venir. Le planning familial, les chiennes de garde, Oser le féministe, la CGT Spectacle, mais aussi des membres des Gilets jaunes ou des personnalités comme Hélène Bidard, en charge de l'égalité homme-femme à la mairie de Paris. Une lettre ouverte a même été publiée dans le journal Le Parisien.
12 nominations au César pour le film J'accuse de Roman Polanski. 12, comme le nombre de femmes qu'il accuse de viol pédocriminel. Les associations et personnalités féministes seront donc là, le 28 février 2020, à la cérémonie des Césars, pour appeler à dire non à la célébration d'un violeur qui silencie les victimes. Refuser de prendre position, célébrer un agresseur comme Polanski, c'est soutenir le système d'impunité des violences masculines et museler la parole des victimes.
À travers cette lettre, les militants demandent aux 4313 professionnels qui votent pour l'attribution des statuettes de boycotter Polanski. Alors bien sûr, côté direction des Césars, ça coince. Tout d'abord parce que les votes sont libres et anonymes. Mais aussi parce que, avec 12 nominations, force est de constater que J'accuse est considéré par l'Académie comme un film remarquable. L'affaire est donc délicate, d'autant que les Césars traversent une crise inédite. Créée en 1975 sur le modèle des Oscars, cette institution a toujours été perçue comme glamour et irréprochable. Sauf que les temps changent et que la politique menée par son directeur Alain Terzian, aux commandes depuis 2003, est de plus en plus décriée. 15 jours avant la soirée, 400 de ses membres ont publié une tribune dans laquelle il réclame une refonte de son mode de gouvernance. Les signataires, Céline Sciamma, Michel Hazanavicius, Omar Sy, Chiara Mastroianni, en somme, toutes les stars y figurent, sur une liste longue de 8 pages. Pire qu'un affront, c'est une humiliation pour Alain Terzian, de celle dont on ne se relève pas. En conséquence, 3 jours plus tard, il démissionne. Et Le Monde titre « Alain Terzian, le parrain déchu des Césars » et publie une enquête qui commence avec ces mots.
Depuis la mi-janvier, le monde d'Alain Terzian se fissure de toutes parts, comme un vieux décor de cinéma après un long tournage. Les faux pas et les mauvaises nouvelles s'accumulent. On lui reproche non seulement sa gestion autocratique et opaque, mais surtout de ne pas avoir pris en compte les voix qui réclament davantage de parité, de diversité et de démocratie au sein de l'Académie. La veille, dans un entretien au journal du dimanche, il pensait avoir gagné du temps en promettant des mesures pour féminiser et rajeunir l'Académie. Mais ce lundi, Terzian ne sait plus quoi dire à part « j'en ai marre ». Je ne peux pas faire plus, ça suffit. Je me suis saigné à blanc, j'en ai marre de ces cons, tous des cons.
À l'approche de la cérémonie, le climat se tend. Alors, on lance une bande-annonce censée anesthésier la fronde, mais qui en creux illustre bien les craintes de l'embrasement. Une voix off y énumère les films en lice. Portrait de la jeune fille en feu, La Belle Époque, Les Misérables, sans mentionner le film J'accuse. Trois jours avant la cérémonie, le collectif Collage Féministe placarde les mots suivants. Violence qui, les Césars de la honte. Oui, violence qui, puisque cela fait 40 ans que 12 femmes l'accusent de viol. Et la rumeur enfle que ces collectifs seront présents fumigènes à la main devant la salle Pleyel où aura lieu la cérémonie. Un cauchemar pour les organisateurs. Et ce n'est pas terminé, car la veille du grand soir, c'est au tour de Polanski de réagir dans les colonnes du journal Le Monde.
Depuis plusieurs jours, on me pose cette question. Viendrai-je ou ne viendrai-je pas à la cérémonie des Césars ? Mais la question que je pose est plutôt la suivante. Comment le pourrais-je ? Le déroulé de cette soirée, on le connaît à l'avance. Des activistes me menacent déjà d'un lynchage public, certains annoncent des démonstrations devant la salle Pleyel, d'autres comptent en faire une tribune de combat contre une gouvernance décriée. Devant protéger ma famille, ma femme et mes enfants, à qui on fait subir un jury affront, c'est avec regret que je prends cette décision, celle de ne pas affronter un tribunal d'opinion autoproclamé, prêt à fouler aux pieds les principes de l'état de droit, pour que l'irrationnel triomphe à nouveau sans partage.
Pour autant, est-ce suffisant ? Non. Car ce qui importe, c'est que J'accuse n'obtienne aucune récompense. Dans la foulée, le journal Le Parisien annonce que Brad Pitt, attendu à Paris pour recevoir un César d'honneur, refuse lui aussi de venir. Une première depuis la création de cette institution. Est-ce un hasard ? On ne sait pas si la défection de l'acteur américain est liée à la polémique Polanski. On mesure juste que cette édition est, disons, mal partie. Vendredi 28 février 20h, quartier de la salle Pleyel. Tandis que les collectifs font face au CRS et donnent de la voix, ce qu'on appelle la grande famille du cinéma arrive. Un à un, les artistes s'avancent sur le tapis rouge, posent pour les photographes et pour certains acceptent de commenter les événements. Peu ou prou, tous déclarent que le changement a du bon. L'un d'eux dit même que ce qui se passe là est, je cite, « peut-être plus important encore que les films ou que le cinéma ». Un certain Nicolas Bedos. À 21h, la cérémonie commence. Dehors, comme dedans, la tension est palpable. Mais heureusement, c'est l'humoriste Florence Foresti qui a été choisie pour ouvrir le show.
Bonsoir. Bonsoir mesdemoiselles, bonsoir mesdames. Et ah si, il en reste. Bonsoir messieurs. Peut-être qu'ils ont un bracelet électronique. Bon, eh bien, écoutez, bienvenue. Hein, bienvenue à la 45e. Je fourche, je trouve pas. C'est un problème. Cérémonie des Césars, je suis très heureuse d'être là. Je suis très courageuse d'être là. Parce que, dis donc...
Enfin, la salle se détend et les rires fusent. Tandis que l'humoriste évoque le contexte tempêteux qui menace, ainsi que ses efforts pour rester la plus consensuelle possible. Mais soudain, à la 8e minute de sa présentation, voilà qu'elle affronte directement le problème, comme elle dit.
Si, sinon, il y a un moment où on va avoir un souci. Dans la cérémonie, il y a 12 moments où on va avoir un souci. Non, alors je vous pose la question. Il faut qu'on règle le problème, sinon ça va nous pourrir la soirée. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec Acroro ? Avec Popol ? Hein ? Non, alors ne faites pas comme lui, faites pas les innocents, vous savez très bien de qui je parle. Qu'est-ce qu'on fait avec Hatchoum ? Non, mais je veux dire, on applaudit pas, faut qu'on se mette d'accord. Parce que vous êtes d'accord que... Enfin, je veux dire, il est hors de question que j'assume ça toute seule. Vous êtes très, très sympathique, je vous aime beaucoup, mais... vous faire reculer, en gros. Non, parce que ça fait...
Soudain, le public exulte. De façon féroce, certes, mais enfin, ça soulage. Le contexte est si tendu. Car en vérité, tous s'interrogent. Que faire si Polanski gagne une ou plusieurs récompenses ? Faudra-t-il vraiment l'applaudir ? Sourire sous l'œil des caméras ? La soirée s'engage et le film J'accuse récolte 2 Césars en forme de miettes. Meilleure adaptation, meilleur costume. Bien. On commence à souffler. Or, voilà qu'en toute fin de soirée arrive le moment du César le plus important, avec celui du film, celui du meilleur réalisateur de l'année. Peu de chance pour que Polanski l'obtienne. Tout d'abord, parce qu'il en a déjà reçu 8 durant sa carrière, ce qui montre bien à quel point il est un cinéaste exceptionnel. Mais là, ils sont 7 à concourir dans cette discipline. Des grands noms, François Ozon, Céline Sciamma, Arnaud de Pléchin, Nicolas Bedos, le duo Nakash Toledano et enfin Ladjili, le favori. Et puis, cette récompense serait un trop grand camouflet pour les collectifs féministes. Peut-être même quelque chose de l'ordre de la provocation. Et voilà l'actrice Emmanuelle Berco accompagnée de la réalisatrice Claire Denis qui monte sur scène. Emmanuelle Berco ouvre l'enveloppe et annonce d'une voix claire.
Le César de la meilleure réalisation est attribué à...
Roman Polanski pour J'accuse.
Il confirme son statut de recordman de la catégorie avec 5 Césars. Il a emporté à chacune de ses nominations Tess, le pianiste, Ghost.
L'Académie remettra ce César à qui de droit ce soir à l'issue de la cérémonie.
Puisqu'ils ne sont pas présents.
Peut-être.
Soudain, la soirée bascule. Bien sûr, la famille du cinéma se sent obligée d'applaudir, mais si peu. C'est plutôt un silence gêné qui parcourt les rangs. D'autant que l'actrice Adèle Haenel se lève et quitte la salle en criant « c'est la honte ». Puis elle passe devant les journalistes et crie « vive la pédophilie ». Car c'est bien ce qui est reproché à Roman Polanski, d'avoir violé des jeunes filles, d'être un pédocriminel. Des accusations en rafale que lui réfute, arguant ne pas se souvenir de ses filles, ou qu'elles ont cédé à l'idée d'une accusation opportuniste orchestrée par certains médias en quête de bon tirage. À l'issue de la soirée, acteurs et actrices commencent à débattre et le fossé se creuse entre les générations. Comme en témoigne cette passe d'armes entre Swann Harlow et Fanny Ardant.
Bah, elle a raison.
Polanski, meilleur réalisateur.
Bah, c'est compliqué quand même, non? Voilà, c'est une question morale. C'est chacun qui trouve sa propre réponse. Mais je comprends très très bien qu'elle soit partie. C'est un peu compliqué, là. C'est un peu étrange. C'est un peu malaisant. La parole se libère. Mais pour autant, les choses n'ont pas changé. Le combat est encore long.
Écoutez-moi, quand j'aime quelqu'un, je l'aime passionnément. Et j'aime beaucoup, beaucoup Roman Polanski. Donc je suis très heureuse pour lui. Après, je comprends que tout le monde n'est pas d'accord, mais vive la liberté.
J'ai conscience que dire ça ce soir après ce qui s'est passé, c'est fort, c'est des mots forts.
Mais moi, je suivrai quelqu'un jusqu'à la guillotine. Je n'aime pas la condamnation.
Dans la rue, la stupeur est totale. Certaines femmes disent avoir envie de vomir. D'autres, d'avoir la rage de vivre dans une société si patriarcale. Toutes répètent qu'il s'agit là des Césars de la honte. Or, comment comprendre que 6 mois plus tôt, la Mostra de Venise ait décerné son grand prix à ce même Polanski, et sans causer de problème? À croire que sur ce point, la France se distingue de sa voisine italienne et que la figure d'Adèle Haenel n'est pas étrangère à cette révolution.
White shirt, now red, my bloody nose sleeping. You're on your tippy toes creeping around like no one knows. Think you're so criminal. Bruises on both my knees for you. Don't say thank you, oh please. I do what I want when I'm wanting to. My soul, so cynical. So you're a tough guy, like you're really rough guy. Just can't get enough guy, just always so puff guy. I'm that bad type, make your mama sad type. Make your girlfriend mad type, might seduce your dad type. I'm the bad guy. Duh. Really rough guy, just can't get enough guy, just always so puff guy. make your mama sad type, make your girlfriend mad type, might seduce your dad type. I'm the bad guy. Duh.
Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, le cas Roman Polanski.
Affaires Sensibles sur France Inter.
Au lendemain des Césars, l'écrivaine Virginie Despentes apporte son soutien entier à Adèle Haenel. Elle signe dans Libération une tribune titrée « Désormais, on se lève et on se barre ». Un texte plein de rage qui s'adresse aux votants des Césars et qui les enferme dans un même clan, celui des violeurs et des puissants.
Où serait le fun d'appartenir au clan des puissants s'il fallait tenir compte du consentement des dominés ? Je ne suis certainement pas la seule à avoir envie de chialer de rage et d'impuissance depuis votre belle démonstration de force. Certainement pas la seule à me sentir salie par le spectacle de votre orgie d'impunité. La loi vous couvre, les tribunaux sont votre domaine, les médias vous appartiennent. Et c'est exactement à cela que ça sert, la puissance de vos grosses fortunes. Avoir le contrôle des corps déclarés subalternes. Le temps est venu pour les plus riches de faire passer ce beau message. Le respect qu'on leur doit s'étendra désormais jusqu'à leurs bites tachées du sang et de la merde des enfants qu'ils violent. Il n'y a rien de surprenant à ce que vous ayez couronné Polanski. C'est toujours l'argent qu'on célèbre. Le cinéma, on s'en fout. Le public, on s'en fout. C'est votre propre puissance de frappe monétaire que vous venez aduler. Alors tous les corps assis ce soir-là dans la salle sont convoqués dans un seul but. Vérifier le pouvoir absolu des puissants. Et les puissants aiment les violeurs. Alors, quand Adèle Haenel s'est levée, c'était le sacrilège en marche. Parce que vous pouvez nous la décliner sur tous les tons. Votre imbécilité de séparation entre l'homme et l'artiste. Toutes les victimes de viols d'artistes savent qu'il n'y a pas de division miraculeuse entre le corps violé et le corps créateur. Venez m'expliquer comment je devrais m'y prendre pour laisser la fille violée devant la porte de mon bureau avant de me mettre à écrire. Bande de bouffons.
Un texte puissant mais qui embarrasse. Car pris dans son ensemble, il tisse une analogie entre les Césars, le viol, la police et la réforme des retraites. Sans doute pour souligner les mécanismes d'oppression actuels. Alors, si certains soulignent la beauté du texte, d'autres alertent sur son versant trop marxisant. Mais ce n'est pas tout. Pour le philosophe Pascal Bruckner, le problème réside aussi dans son sous-texte antisémite, comme il explique dans le journal Le Point. Il dit « Le rapprochement est peut-être involontaire, il est du moins maladroit. Qui aime l'argent le chérit comme un dieu en fait commerce, usure et usage ?» On connaît la réponse, c'est le juif, qui est à la fois lubrique et cupide. Il est vrai que Virginie Despentes avait manifesté une certaine tendresse pour les tueurs de Charlie Hebdo. Ceci explique peut-être cela, conclut-il. Malaise. Pour la journaliste Natacha Polony, le souci vient plutôt du fait que le texte met en avant la détestation des hommes puissants qui auraient pour but, je la cite, d'imposer le fantasme d'une norme hétérosexuelle illégitime et totalitaire puisque culturellement construite et par laquelle les hommes asserviraient le reste de l'humanité. En somme, sous la plume de Despentes, l'affaire Polanski devient le symptôme des luttes intersectionnelles, dominant contre dominé, blanc contre racisé, hétéro-boomer contre militant LGBT. D'autant que la révolution MeToo est passée par là. Et avec elle, son cortège de révélations, chaque jour plus sordide, sur les délits et crimes sexuels qui irriguent les milieux culturels. C'est ainsi qu'en quelques années, les termes « emprise », « harcèlement », « inceste » sont entrés dans le langage courant, que les noms de Maltzneff, Weinstein ou Duhamel, entre autres, sont devenus des génériques. Et c'est là que la figure de Polanski intervient. En tant que cinéaste dominant, accusé par de nombreuses femmes, il devient le symbole d'une période honnie par la nouvelle génération. Explication sur ce point de Céline Pic, la porte-parole du collectif Oser le féminisme sur France Inter.
La sortie de ce film important, hein, sur l'histoire de Dreyfus est utilisée par Roman Polanski pour attaquer et traiter de menteuses les femmes victimes de violences sexuelles. Donc c'est vraiment une inversion complète. Et dans le dossier de presse du film, il parle d'histoires aberrantes de femmes qu'il n'a jamais rencontrées. Et puis il parle aussi du tribunal médiatique des réseaux sociaux. Et ça, c'est insupportable. C'est exactement à cause de ce type de manœuvre où un homme utilise sa puissance, sa position d'artiste, sa position de cinéaste adulé pour réécrire l'histoire et surtout en sa faveur. Et il se fait passer pour une victime. Non, Roman Polanski n'est pas persécuté. Roman Polanski n'est pas Dreyfus. Il est aujourd'hui accusé toujours de viol pédocriminel sur une enfant de 13 ans et il est toujours sous le coup d'une demande d'extradition des États-Unis et on ne nous fera pas passer le bourreau pour la victime.
Roman Polanski n'est pas Dreyfus, certes. Mais dans le dossier de presse qui accompagne la sortie de son film, il dresse un parallèle entre l'officier français et lui, sujet de son film J'accuse. Je connais bon nombre des mécanismes de persécution qui sont à l'œuvre dans le film. Et cela m'a évidemment inspiré, dit-il. En somme, lui-même ne sépare pas l'homme de l'artiste. Mais ses défenseurs soulignent le fait qu'il est depuis trop longtemps persécuté par les médias. C'est vrai. C'est vrai que la vie de Roman Polanski, depuis toujours, est complexe, traversée de drames. Comment résumer son enfance passée durant la guerre à Cracovie ? L'enfermement dans le ghetto, comme il le raconte d'une phrase. Brutalement, je compris, on était en train de nous emmurer. Sa mère, enceinte de 4 mois, sa grand-mère, son père sont déportés, et seul ce dernier reviendra. Lui, enfant de 10 ans, trouve refuge dans des familles d'accueil, puis chez ses oncles. Et quand la guerre prend fin, la Pologne passe du joug nazi au joug de Staline, et c'est pour l'adolescent à peine plus simple à vivre. Heureusement, aller au cinéma ne coûte pas cher. Alors, l'adolescent y passe tout son temps, en dépit des graffitis sur les murs qui disent « Seuls les cochons vont au cinéma ». Les communistes faisant l'analogie entre cochons et cinéastes juifs. Comment ne pas repenser à ce mot « cochon » à l'heure du drame de Seal Drive en Californie ? En août 69, sa femme, Sharon Tate, est sauvagement éventrée par des adeptes de la secte de Charles Manson, alors qu'elle est enceinte de 8 mois et demi. Sur les murs, en lettres de sang, voilà qu'apparaît ce même mot, pig, cochon. Inspiré, disent certains, par la chanson anti-bourgeoise des Beatles, Piggies. Étonnamment, à l'égard de Polanski, les médias oscillent entre compassion et complotisme. Certains insinuent que le cinéaste pourrait avoir lui-même commandité la mort de sa femme. Car enfin, cet homme n'est-il pas étrange ? Regardez ses films, ils sont effrayants. À chaque fois, l'innocence est souillée et l'aliénation si proche. Et puis c'est bien connu, ces gens-là se droguent, ils organisent des orgies. Dans son livre « L'Amérique », Joanne Didion revient sur les soupçons qui s'abattent sur le cinéaste.
La tentation mystique de l'idée de péché, cette impression qu'il était possible d'aller trop loin et que beaucoup de gens le faisaient, était très présente. Une tension en vortex, démente et séduisante, montait au sein de la communauté. Les premiers comptes rendus étaient confus et contradictoires. Quelqu'un parlait de cagoule, un autre de chaîne. On imaginait des messes noires et on mettait ça sur le compte de mauvais tripes. Je me souviens parfaitement de toutes les informations erronées de cette journée. Et je me souviens de ceci, que j'aurais préféré oublier. Je me souviens que personne n'était surpris.
Au bout de quelques mois, les meurtriers de Sharon Tate sont retrouvés. Ils avouent et justice est rendue en faveur de Polanski. Peu à peu, le voilà qui reprend pied à force de travail, de fêtes et de projets. Parmi eux, un contrat pour le magazine Vogue Homme. Il s'agit de photographier des adolescentes européennes et américaines. La photo de jeune fille a alors le vent en poupe, comme en témoignent les clichés érotiques de David Hamilton, accusé lui aussi de viol ou d'agression sexuelle par plusieurs femmes. En tout cas, lors d'une soirée en mars 77, il croise une adolescente, Samantha Gailey, lui donne une drogue, du champagne, et lui propose un bain dans la piscine de Jack Nicholson. Puis il la viole. Elle a 14 ans, il en a 44. D'abord, Polanski nie, évoque une relation consentie. Puis il plaide coupable et passe 42 jours en prison. À sa sortie, le cinéaste s'enfuit en Europe. Il en explique les raisons à Jean-Pierre Elkabbach sur Antenne 2, en octobre 1979.
Vous parlez de l'affaire, il faut rappeler encore une fois qu'il s'agissait de relations un peu personnelles avec une fille de 14 ans, etc. Mais quand vous l'avez connue, il n'y avait pas seulement des préoccupations morales, il y avait une base qui était la réalité, votre préférence pour les petites filles peut-être.
C'est pas ma préférence pour des jeunes filles, disons, ou jeunes femmes, ça sonne mieux en français. Je ne l'ai jamais caché, j'étais toujours entouré de jeunes filles. Je dû peut-être pas rester assez longtemps, trop longtemps aux États-Unis. Il ne faut pas oublier que chacun qui a une relation sexuelle avec une personne en dessous des 18 ans aux États-Unis est un criminel.
Depuis, Roman Polanski n'est pas retourné aux États-Unis. Dans cette même interview, Jean-Pierre Alcabache lui demande où il peut aller aujourd'hui, sans risquer d'être arrêté puis extradé vers les USA. Le cinéaste répond « la France ». Parce qu'il est français et que la France n'extrade pas ses ressortissants. Et puis bien sûr, tous les pays où les relations sexuelles avec une fille de 14 ans ne constituent pas un crime. Banni du sol US, Polanski parvient toutefois à devenir un cinéaste adulé dans le monde entier. Comme en témoigne cet Oscar remis par Harrison Ford en mars 2003 pour son film Le Pianiste.
The Oscar goes to Roman Polanski for The Pianist.
Quand on entend son nom comme gagnant, forcément on est surpris.
Il y a un grand cri de joie, on entend une femme qui hurle.
La caméra se porte sur les autres nommés, notamment Martin Scorsese, qui applaudit tout de suite.
On sent que sur son visage, c'est justifié, que, voilà, que le nom de Roman Polanski comme Oscar du meilleur réalisateur est justifié.
Ces années-là sont celles des chefs-d'œuvre de Polanski et des prix en pagaille qui contribuent, aux yeux de tous, à éclipser sa condition de fugitif. Le cinéaste parvient même à refaire sa vie. Marié à l'actrice Emmanuelle Seigné, il découvre les joies de la vie de famille. Jusqu'à ce qu'en septembre 2009, tandis qu'il se rend à Zurich pour recevoir un prix, les États-Unis lancent une demande d'extradition. Une conférence de presse est alors organisée où le ministre de la Culture, Frédéric Mitterrand, prend la parole.
Je suis très ému en parlant parce que je trouve que c'est une chose épouvantable et totalement injuste. Roman Polanski est un homme merveilleux, c'est-à-dire un homme d'une très très grande qualité humaine qui, après avoir eu une vie d'épreuves épouvantables, a enfin pu reconstituer une vie de famille avec une épouse qu'il aime, des enfants qu'il élève avec beaucoup d'attention. Et de le voir ainsi jeté en pâture pour une histoire ancienne qui n'a pas vraiment de sens, c'est absolument épouvantable. Alors on sait les conditions dans lesquelles c'est arrivé, de la même manière qu'il y a une Amérique généreuse, il y a aussi une certaine Amérique qui fait peur, et c'est cette Amérique-là qui vient de présenter son visage.
Les images font le tour du monde. La star Polanski passe 2 mois en prison avant que la Suisse n'accepte sa libération contre une caution de 3 millions d'euros et la signe à 8 mois de résidence surveillée dans son chalet de Gstaad, muni d'un bracelet électronique. Scandale dans le milieu de la culture. Une pétition est lancée pour le soutenir. Signée par Costa Gavras, Wong Kar-wai, Jean-Jacques Benex, Monica Bellucci et Torres Cola, les plus grands noms s'offusquent du traitement réservé à ce génie du cinéma. Des noms qui paraît si désuet, 10 ans plus tard, un autre temps. Car de nouveau Polanski est accusé. Des femmes témoignent. Elles ont également été violées par le cinéaste. Certaines l'accusent anonymement via le site imetpolanski.com qui propose aux plaignantes la somme de 20 000 dollars en échange de leur témoignage. Douteux, admettons. Mais quel serait l'intérêt d'une femme à dire « j'ai été violée » ? La parole des femmes est souvent mise en doute quand elles accusent, encore plus quand elles accusent des années plus tard et que les faits sont prescrits. Mais l'ampleur du mouvement est telle que se pose désormais la question de la séparation entre l'homme et l'artiste. Dès 2017, l'humoriste Blanche Gardin pose le diagnostic à sa manière. C'est bizarre que cette indulgence s'applique seulement aux artistes. Par exemple, on ne dit pas d'un boulanger « C'est vrai, il viole un peu des gosses dans son fournil, mais il fait quand même une baguette extraordinaire. » Alors on rit, et en même temps, on s'interroge. En octobre de cette même année 2017, la Cinémathèque organise une rétrospective Polanski qui dégénère.
Bonsoir à tous, soyez les bienvenus à la Cinémathèque française.
Frédéric Bonneau, le directeur de la Cinémathèque, accueille le public comme si de rien n'était. Pourtant, quelques minutes auparavant, l'arrivée de Roman Polanski a été perturbée par deux femmes. Torse nu, elles ont vite été évacuées par les vigiles. À peine le temps de scander « Pas d'honneur pour les violeurs », c'est la question du soir qui restera sans réponse. Et c'est bien avec les honneurs, photocalls publics conquis que Roman Polanski a ouvert cette rétrospective.
Merci, merci, merci beaucoup.
À l'abri des manifestants, les sourires sont un peu crispés. L'affaire, jamais loin.
Mes films, ils sont perpétuels, en dépit de certains zinzins.
L'association Oser le féminisme déclare « Par la négation des faits criminels qui sont reprochés à Polanski, la Cinémathèque participe à l'idée que violer une enfance, ce n'est pas si grave au regard du génie de l'artiste. » Or, son directeur, Frédéric Bonneau, ne change rien. La polémique, toutefois, laisse des traces. Et elle rebondit 2 ans plus tard, après les confessions d'Adèle Hanel dans Mediapart, où elle confie avoir été sexuellement agressée par le réalisateur Christophe Ruggia. 5 jours plus tard, une autre femme, Valentine Monnier, déclare avoir été violée par Polanski en 75 alors qu'elle venait de fêter ses 18 ans. Le journal Le Parisien publie son témoignage. « Il me frappa, me roua de coups jusqu'à ma reddition, puis me viola en me faisant subir toutes les vicissitudes. » Une accusation qui surgit pile au moment où J'accuse sort sur les écrans. Un timing assumé par la plaignante et qui provoque des manifestations anti-Polanski devant les cinémas. De son côté, Adèle Haenel déclare être bouleversée par le témoignage de Valentine Monnier et la croire. Alors naît le slogan « Victime, on vous croit », repris ici lors de la journée des droits des femmes.
Encore aujourd'hui, nombreuses femmes se font violer et on leur demande comment elles étaient habillées. On remet en doute leurs paroles et... On leur dit jamais « oui, je te crois ». Et voilà pourquoi ces panneaux, voilà pourquoi on est ici aujourd'hui, parce qu'on les croit et on veut qu'elles le sachent.
Mais outre l'idée de la crédibilité, il s'agit aussi de lutter pour que le viol devienne un crime imprescriptible, au même titre que les crimes contre l'humanité. Même si certains répondent que croire sans preuve, c'est fixer les femmes dans un rôle de victime. Et la polémique enfle. 8 jours après les Césars, 114 avocates publient une tribune dans Le Monde. L'une d'elles, Marie Dauzet, l'explique sur France Inter.
Le droit n'organise-t-il pas l'impunité ?
Mais non, le droit c'est d'abord le moyen de lutter contre l'arbitraire. On ne peut pas être condamné sur une simple accusation, sinon on glisse vers l'arbitraire. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça veut dire ? Nous sommes nombreuses, nous, à savoir qu'une plainte n'est pas toujours un viol ou une violence sexuelle. Ça ne peut pas être cela. Moi, j'ai peur, là, de vous parler. Est-ce que c'est normal ? Est-ce que c'est normal que moi, avocate, j'ai failli ne pas répondre à votre invitation ?
Pourquoi vous avez peur ?
Pourquoi ? Parce que je sens que la libération de cette parole est en train de confisquer les autres. Et que il n'est pas normal dans... notre état de droit, qu'en rappelant les grands principes de l'état de droit, on ait peur d'intervenir publiquement. Et la difficulté, c'est que si à chaque fois que je rappelle l'état de droit, les victimes de violences sexuelles considèrent que je leur fais offense, on arrive à une catastrophe. Nous, on avait intitulé cette tribune « On se lève, on reste, on plaide ».
On plaide, oui, lorsqu'il y a des preuves que l'on est dans les temps. Ou que l'accusé est toujours en état de nuire. Or, les années passent, et Roman Polanski vieillit. Au seuil de ses 90 ans, il continue de qualifier les accusations d'odieux mensonges. D'autant qu'en juillet 2023, Samantha Gemer, la première jeune fille qu'il avait accusée, revient sur le devant de la scène. Et elle pose aux côtés d'Emmanuel Seigné, l'épouse de Polanski, en une du journal Le Point, pour une interview sidérante.
Que ce soit bien clair, ce qui s'est passé avec Roman n'a jamais été un gros problème pour moi. Je ne savais même pas que c'était illégal et devoir constamment répéter que ce n'était pas bien grave est un terrible fardeau. Vous savez, à l'époque, les adolescentes rêvaient toutes de se retrouver dans la maison de Jack Nicholson pour s'envoyer en l'air. Alors oui, sans doute que cela choque aujourd'hui, mais youhou, vous ne pouvez pas coller votre indignation du jour à quelque chose qui s'est passé à une époque différente. C'était un féminisme qui nous disait « Tu veux faire partie du monde ? Grande nouvelle, le monde est merdique et tu ne peux pas t'en sortir en chouinant. » Personnellement, je ne vois pas ce qu'il y a de féministe à hurler qu'on est une victime. C'est de la bienveillance bidon, de la libération bidon. La parole des femmes se libère, la bonne blague. Tout ce qu'ils veulent, ce sont des femmes en souffrance. Mon avis, c'est que MeToo s'est transformé en quelque chose de très rétrograde.
MeToo rétrograde, C'est surtout le symbole d'une différence d'appréciation entre les féministes d'hier et celles d'aujourd'hui. La question est également générationnelle. Et bientôt, de nouveaux scandales surgissent dans la sphère cinématographique. Et ils sont nombreux. Les plus fracassants jettent une lumière crue sur des réalisateurs respectés, comme Benoît Jacquot, Jacques Doyon et Abdelatif Kechiche. Ou sur des stars, comme Gérard Depardieu. Des affaires qui choquent, quelles que soient les générations. Durant des années, l'aura artistique de ces artistes leur a permis, en toute impunité, de soumettre intellectuellement et sexuellement des jeunes filles, parfois même avec l'assentiment des familles. Oui, de les faire chanter pour obtenir leur faveur, ou de les faire boire durant des heures avant de tourner des scènes de sexe devant les équipes. On découvre ainsi que c'est toute la famille du cinéma qui a fermé les yeux, contribuant ainsi à nourrir ce qui est devenu une culture du viol. Abasourdi, la France comprend que ces héros, intello ou grand public, ne font pas la fierté du pays, en tout cas pas forcément. Qu'il y a quelque chose de pourri au royaume du Danemark, comme disait Shakespeare. Et qu'au-delà de la question de la séparation entre l'homme et l'artiste, l'important est désormais de lever le voile sur les dénis en série. Le 6 janvier 2024, dans une enquête du Monde concernant l'affaire Depardieu, le réalisateur Pierre Salvadori confiait « J'ai aimé Gérard autant qu'il m'a consterné », tout en cherchant ses mots sur un film. Aujourd'hui, Roman Polanski face à la vague MeToo. Notre invité, Julia Foyce, bonjour.
Bonjour Fabrice.
Vous êtes journaliste productrice de l'émission En Marge sur France Inter. Vous venez de publier Ce que le féminisme m'a fait aux éditions Flammarion, dans lequel vous consacrez plusieurs pages au MeToo cinéma. Et puis vous êtes la co-autrice avec le metteur en scène Étienne Godillère de la pièce Faut-il séparer l'homme de l'artiste, pièce qui sera jouée à Avignon cet été, c'est bien ça?
Oui, c'est ça. Trois semaines au festival Off d'Avignon, aux Têtes des Carmes, au mois de juillet.
Vous avez bien de la chance.
Alors, moi, j'y serai pas, mais je les embrasse tous.
Ah,
et j'invite tout le monde à venir voir cette pièce, parce que quand je vois l'effet qu'elle produit sur les spectatrices et les spectateurs, on se dit qu'elle vaut le coup. Voilà. Elle brasse. Elle devait au départ être jouée 3 jours, et puis on a tourné 2 ans. Elle brasse parce qu'elle interroge chacun, chacune d'entre nous. Elle nous pose la question, en fait, est-ce que j'écoute Bertrand Cantat? Est-ce que j'achète ses albums? Est-ce que je vais à ses concerts? Qui sont 3 choses différentes. Et si je le fais, pourquoi? Est-ce que je pense que le César attribué à Polanski était un crachat à la gueule des victimes? Ou est-ce qu'au contraire, non, il faut séparer l'homme de l'artiste, etc. C'est des questions qu'on se pose toutes et tous. Et cette pièce tente à peu près d'y répondre.
Alors, tout au long du récit, on a mis en avant aussi les résistances au progrès. Les résistances à la libération de la parole, y compris de la part de femmes. Qu'est-ce que ça vous inspire, ça?
De toute façon, on le dit et on le répète, et quand je dis « on », c'est les féministes, ceux qui parlent de guerre des sexes, c'est pas nous, hein. C'est très pratique, cette histoire de guerre des sexes, parce que ça fait hésiter tout le monde. Parce qu'on n'a pas envie de faire la guerre aux hommes, parce que c'est pas le problème, en fait. C'est une guerre des mondes, entre un vieux monde qui est construit sur un système pyramidal, et tout en haut de la pyramide, vous allez avoir les catégories sociales dominantes, et il se trouve que, à l'intérieur de ces catégories sociales dominantes, vous avez plutôt une majorité d'hommes, mais vous avez quelques femmes. Ah. Ces histoires sont des histoires de domination, c'est pas des histoires de séduction.
Il y a aussi des histoires parmi les femmes, des réactions contre justement cette évolution. Il n'y a pas que ça. C'est comme ça.
Alors, il y a
des résistances qu'on pourrait prêter de réactionnaires, peut-être.
Il y a des femmes patriarcales, bien sûr. En général, ce sont des femmes de pouvoir.
Oui, voilà.
Il y a toujours eu une résistance au mouvement féministe du côté des femmes et de sommités intellectuelles. Je parle d'elle dans mon livre, Elisabeth Badinter, qui, au moment où les associations féministes demandent des comptes au sens propre du terme, dans les années 70, elles veulent commencer à compter les victimes de violences conjugales, les victimes de violences sexuelles, pour dire, en fait, pour sortir ces faits-là de la catégorie faits divers, mais de les traiter pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des phénomènes de société. Parce que, on le sait, tant qu'on posera pas bien le problème, on n'arrivera pas à le résoudre.
C'est la question du déni, ça, d'ailleurs, au passage.
Exactement. Et j'imagine qu'on y reviendra. Mais à l'époque, Elisabeth Badinter est vent debout contre Gisèle Halimi, qui, elle, veut compter. Et elle dit, faut absolument pas compter parce que ça enfermerait les victimes dans leur statut de victime.
C'est ça.
Or, il faudrait nier ce qu'elles ont vécu. Et quoi? Elles s'en sortiraient mieux? Moi, je pense précisément le contraire. Je pense qu'à partir du moment où on reconnaît qu'on a été victime, alors là, oui, on va pouvoir s'en sortir. Et de toute façon, compter était fondamental. Depuis qu'on a ces chiffres-là, on sait contre quoi on se bat.
Ça passe aussi, les résistances passent aussi par le déni. C'est un outil. Par exemple, agression sexuelle pour parler d'un viol.
On dit abus. C'est déjà abus. Quand on dit agression, c'est, oui, c'est déjà, c'est déjà on est pas mal.
Abus pour dire viol.
On dit abus.
Un viol
alors
est un
en
crime.
Fait, ouais. C'est alors c'est bien parce que l'abus c'est mignon, c'est rigolo, c'est gentillesse, ça fait de mal à personne. Et puis on quoi, on aurait abusé du corps d'un enfant ou du corps d'une femme comme on abuserait du chocolat. Hein. Donc je bois bien, mais bon ça va, c'est pas si grave que ça. Et puis surtout c'est une question de quantité. C'est pas du tout une question de quantité, c'est une question de nature, de qualification des faits. Le jour où on se parlera de ces faits-là pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire en parlant de violence, d'agression ou de viol, alors je pense qu'on pourra commencer à discuter vraiment de qu'est-ce qui doit changer, de comment on doit le changer. Mais tant qu'on se parle d'abus, de dérapage, vous savez, c'est hop, j'ai pas fait exprès.
Oui, dérapage aussi.
On a dérapé. Hop là, hop là. Non,
alors on
n'a pas
parle
dérapé.
De crime, hein, qui passe aux assises.
On se parle de délit pour les agressions et de crime passible des assises.
Ouais. Bien sûr.
Évidemment.
Vous étiez devant votre télé, Julia Foïtz, le soir où le César est décerné à Roman Polanski. Comment réagissez-vous?
Comme ça. J'étais sans voix. J'ai eu beaucoup d'admiration pour Adèle Haenel. On se lève et on se casse, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ce monde-là, on va le construire sans vous. C'est-à-dire que c'est intolérable. On se parle de quoi? On se parle d'un réalisateur qui est accusé 12 fois de viol. Quand je vous dis qu'on ne veut pas entendre, peut-être que meurtre, on l'entend mieux. Si vous remplacez viol par meurtre, et que je vous dis, Roman Polanski est accusé 12 fois de meurtre, mais on va lui donner un César,
ça ne passe pas.
Non, non, c'est un peu plus compliqué. Je pense que la vérité, c'est que les violences faites aux femmes et aux enfants, soit on ne veut pas les voir, et effectivement, on est dans l'ordre du déni, soit on se dit que c'est pas si grave que ça, que le monde a toujours roulé comme ça.
Et c'est aussi lié au monde des artistes. Qui font rêver. Et Blanche Gardin le dit bien.
Ah oui.
quand un boulanger viole, on dit pas oui, mais il fait un pain extraordinaire.
C'est exactement ça. C'est comme s'il bénéficiait d'un statut spécial. Alors, c'est très français, hein. Mm-hmm. Ça se passe pas comme ça aux États-Unis, ça se passe pas comme ça ailleurs. C'est vraiment chez nous où c'est comme s'il y avait une sorte de totem d'immunité qui faisait que, bah, après tout, il chante si bien, quant à il peut bien la rouer de coups, Marie, hein.
Bah oui.
Puis nous faire un dernier album derrière, évidemment. Bien sûr, bah oui.
Sinon, il va nous manquer.
Hein, bah oui.
Bon, Julia Foïtz, on va arriver à la question centrale. Je connais votre réponse, par oui ou par non. Mais ce qui m'intéresse, c'est de savoir pourquoi. Faut-il séparer l'homme de son œuvre?
Eh ben non.
Non. En bien, fait, merci, au revoir.
Voilà, l'émission se termine. Non, en fait, cette question-là, elle est extrêmement pernicieuse et elle raconte comment, dès qu'il s'agit de violences sexistes et sexuelles, ça fout tellement la trouille qu'on a le cerveau qui bug et qu'on mélange tout. À l'origine, on a Proust et Sainte-Beuve qui se demandent si on sépare l'homme de l'œuvre. Et ça, on peut en discuter pendant des heures de la liberté de création. Est-ce que Flaubert, par exemple, quand il décrit une Madame Bovary adultère, est-ce que ça veut dire qu'il cautionne l'adultère? Bon, après tout, c'est bien ce qu'il veut. On se parle de son œuvre.
Mm-hmm.
Mais petit à petit, on a glissé, et c'était assez pratique pour certains, il faut dire, entre cette distinction-là est devenue, faut-il séparer l'homme de l'artiste? C'est-à-dire dédouaner l'homme de ses actes au prétexte qu'il est un artiste. Et là, c'est
dédouaner, c'est ça le mot-clé.
Oui.
J'ai l'impression.
Parce que je suis un artiste, je peux tout. Je suis dominant entre les dominants et je peux tout. Alors on est aussi dans un contexte culturel où on a une espèce de dévotion pour les auteurs, et vous citiez Jacquot ou Doyon tout à l'heure, on est sur du cinéma d'auteur avec des auteurs qui sont tout puissants, puisque tout est une question de domination, plus vous aurez de pouvoir quelque part, plus on aura un problème. Moins ce sera mixte, moins ce sera divers, moins ce sera mélangé, et plus de risques il y aura pour les plus fragiles, pour les plus faibles et pour les plus dominés. Attention, quand je dis faible, il n'y a rien de plus fort qu'une femme qu'on a voulu mettre à terre et qui s'est relevée. Hein. Les victimes, elles ne sont pas faibles. Si elles sont encore debout, c'est qu'elles sont même sacrément costauds. Ce que je veux dire, c'est qu'elles sont précarisées par leur situation sociale. On va... Ces mecs-là savent exactement ce qu'ils font. Hein.
Ouais. Le féminisme est une idée, à vous entendre, profondément démocratique, finalement.
Ah oui.
Puisque le pouvoir...
je l'ai même dit, il était public, et hein? je le recommande à tout le monde. Évidemment que c'est une... Ce que le projet politique porté par le féminisme est un projet d'une société qui serait véritablement égalitaire et démocratique. On a commencé plutôt pas mal en 1789, puis on s'est fait bananer assez rapidement, puisque ils ont réussi à mettre dans la même formule, suffrage universel masculin. C'est-à-dire que ce qui était universel, en fait, ne l'était pas du tout. Donc ce qui se passe là, c'est simplement on rattrape et on fait la deuxième moitié du chemin.
Alors il y a la deuxième question, qui est très liée à la question du boycott et de l'effacement. Ah, je vous la pose, parce que la notion d'effacement peut être, il faut le comprendre, anxiogène pour un certain nombre de personnes. Anxiogène, hein.
Ouais.
On efface.
C'est encore un chiffon rouge, moi j'aimerais
alors,
que vous
me
citiez qui a été effacé par les féministes. Quelle œuvre les féministes ont-elles réussi à brûler? aucune. En revanche, qui a été effacé dans les manuels d'histoire? C'est toujours les femmes. Hein. Ouais. Dans les prix Nobel, c'est toujours les femmes. Mmh. Alors, la cancel culture, si jamais, elle est là. Ça, oui, les femmes ont été effacées.
Mais quand certains ou certaines disent, par exemple, tiens, faut plus passer de films de Depardieu sur, sur le service public, par exemple.
Alors, déjà, elles ne le disent pas, je crois que c'est un vrai fantasme. Hein. C'est-à-dire que quand on dit féministe, on imagine une horde de viragos déboulant de je sais pas où, avec des gros ciseaux au bout des doigts, et l'étape d'après, c'est une pluie de testicules sur la terre. Hein, qui, il y a une forme de castration généralisée qui est tout aussi fantasmée qu'elle est partagée par un certain nombre de personnes. La vérité, c'est que les féministes ne demandent pas ça, ni l'interdiction de qui que ce soit, ni la censure de quoi que ce soit. Simplement, elle demande, oui, une explication, une contextualisation. Et se dire que, dans un contexte, parce qu'il y a toujours un moment, il y a toujours une question de contexte, dans un moment où on se rend compte de l'impunité totale dans laquelle les violeurs violent. Mmh. Est-ce qu'il est forcément opportun de balancer les valseuses comme ça, sans rien dire, sans contexte avant, sans débat après? Je ne suis pas sûre. Je pense qu'on peut le diffuser et s'en saisir pour derrière raconter ce qu'a été la culture du viol.
Pour refaire les dossiers d'écran, quoi.
Ah oui, bah ce serait une très bonne idée.
Alors, je vais apporter de l'eau à votre moulin. D'ailleurs, vous dites aussi, c'est vous qui le dites, hein, que dans notre société, et effectivement, c'est vrai, une personnalité publique accusée de fraude ou de délit financier démissionne. Si elle est accusée de violence sexuelle, elle ne démissionne pas.
Bouge pas. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que les crimes sexuels, c'est moins grave que les autres. Donc, un Cahuzac, un Bayrou, je ne sais pas si vous vous souvenez, à un moment donné, le modem était empêtré dans une affaire d'emploi fictif. C'était une mise en examen, il n'y avait pas de condamnation. Mm-hmm. Lui, Bayrou et Marielle de Sarnez ont dégagé hein, du gouvernement. Tout de suite. Au Danemark, vous avez le maire de Copenhague qui est accusé d'harcèlement sexuel, il démissionne. Ouais. Parce qu'il dit, je veux que mon parti, je veux que la mairie puisse fonctionner normalement. En France, les crimes sexuels sont les seuls à ne pas vous faire quitter votre poste. Donc, de là, on conclut qu'en fait, ce qu'on fait subir aux femmes et aux enfants...
Est moins grave qu'un délit financier.
Voilà, ben c'est beaucoup moins grave. Donc, circuler, il n'y a rien à voir. Le déni, c'est ça aussi.
Quand l'actrice Judith Godrèche révèle l'emprise qu'exerçait sur elle le réalisateur Benoît Jacquot, alors qu'elle était adolescente, là, quand même, le milieu du cinéma semble se réveiller. Est-ce qu'il y a une étape supplémentaire? Et s'il se réveille plus là que pour d'autres affaires, c'est dû à quoi, à votre avis? À moins que vous ne soyez pas d'accord sur le fait qu'il se réveille.
Alors, je suis un peu moins enthousiaste que vous là-dessus. J'ai trouvé la salle des Césars particulièrement froide ce soir-là. Elle a parlé derrière. Qu'est-ce qui s'est passé? Pas grand-chose. Je crois qu'on avance par étapes. Je crois que l'étape Godrèche est une étape fondamentale. Je pense que chaque étape peut conduire.
C'est ça, c'est vraiment
à une
autre étape.
Mmh. Si tant est que le backlash, le fameux retour de bâton, n'intervienne pas avant. Mmh. Il interviendra. La seule question, c'est qu'est-ce qu'on aura eu le temps de faire avant?
À partir de quand le combat sera gagné? Pour vous, on a 30 secondes. Si... Par exemple, est-ce qu'on pourra dire que le combat pour l'égalité des hommes et des femmes sera gagné dès lors, par exemple, que les femmes gagneront le même salaire que les hommes? On pourrait peut-être commencer par là, parce que ça reste quand même quelque chose d'incroyable.
C'est un système. Donc de toute façon, il faut travailler à tous les étages de la société, à tous les postes, et chacun avec son savoir-faire. Moi, je dirais que on aura gagné quand une femme n'aura plus peur d'aller au commissariat, quand elle portera plainte et qu'on prendra sa plainte, quand elle sera crue et entendue.
Ce sera le mot de la fin, Julia Foyce. Merci infiniment.
Merci à vous.